Christian Bouquet, bonjour.
Bonjour.
Vous avez étudié des mouvements citoyens dans plusieurs pays. Il y en a marre au Sénégal, le ballet citoyen au Burkina ou encore la Lucha en RDC. Y a-t-il des caractéristiques communes qui expliquent que ces mouvements soient nés dans des villes ?
Oui, il y a des caractéristiques communes. D'abord parce que ça repose sur des jeunes et que les jeunes sont quand même extrêmement nombreux dans les villes. Ensuite, ces mouvements ont souvent été fondés par des artistes, souvent des musiciens, rappeurs, slameurs, et que ces artistes s'expriment beaucoup plus en ville. Et puis enfin, l'autre point commun, c'est que ça circule beaucoup par les réseaux sociaux, et c'est quand même bien les villes qui sont les mieux connectées au réseau, et donc par ce médium-là, circule à la fois toute cette musique et tous ces discours revendicatifs.
Et pourtant, ces trois pays, donc le Sénégal, le Burkina ou la RDC, ce ne sont pas les plus urbanisés du continent. Il y en a d'autres qui sont plus urbanisés qu'eux.
C'est là que commencent les différences. Les points communs, on vient d'en parler. Les différences, c'est que le Sénégal est un pays de très vieille tradition démocratique. Et donc, le mouvement Y en a marre a pris relativement facilement, notamment parce que il appelait dans un premier temps les jeunes à protester contre les difficultés du quotidien, le manque d'eau, les coupures d'électricité. Et ils fonctionnaient un peu à la manière des grands frères dans les banlieues françaises, c'est-à-dire qu'ils incitaient les jeunes à aller s'inscrire sur les listes électorales. Ils avaient donc, eux, une démarche qui était clairement démocratique et républicaine. Mmh. Au Burkina Faso, ces mouvements citoyens étaient plutôt d'inspiration sankariste, la vieille culture révolutionnaire burkinabé qui s'est manifesté un petit peu plus tard d'ailleurs que le mouvement Y en a marre et a été peut-être un petit peu plus violent puisque l'insurrection qui a chassé Blaise Compaoré s'est faite dans la violence. Quant à la Lucha, puisque c'est le troisième dont nous parlons, c'est un groupe qui fonctionne avec Filimbi dans un parti où pour le moment il n'a pas encore vraiment remporté de victoire.
Et vous pensez aussi que la ville africaine, l'organisation géographique, peut être également propice au développement de ces mouvements ?
Ben je le pense parce qu'il y a concentration de population. Lorsque, par le biais des mouvements sociaux, on organise ce qu'on appelle une flash mob, donc une mobilisation flash, une mobilisation rapide, vous pouvez avoir, en une demi-heure, vous pouvez avoir 10 000 personnes, 50 000 personnes au même endroit pour lancer un mouvement de protestation. Et puis, j'insiste aussi sur le fait que la pauvreté, la misère et les inégalités sont probablement beaucoup plus ostensible,
plus visible dans les villes,
plus visible, et donc la sensibilisation des jeunes qui sont eux-mêmes frappés souvent par le chômage ou par la pauvreté est plus réactive.
Toutes ces caractéristiques, tous ces traits font que ces mouvements ne prennent pas dans les campagnes.
Oui, quand on fait l'analyse inverse, d'abord les campagnes sont moins bien connectées au réseau, faut bien le reconnaître. Ensuite, l'habitat y est naturellement plus dispersé. Et en troisième lieu, les populations sont moins alphabétisées, moins instruites. Donc, il y a une forme de lenteur, ce qui fait d'ailleurs que ça se manifeste dans les urnes. Les campagnes sont plus conservatrices, on va dire, que les villes.
Ça aussi, ça participe de l'émergence de ces mouvements dans les villes.
Oui, et en même temps, c'est ce qui en fait l'ambiguïté, parce que, comme je l'ai analysé, comme je l'ai étudié, les villes, démographiquement et donc électoralement, ne sont pas majoritaires. Donc, souvent, si on consulte le pays par référendum, par exemple, eh bien, souvent, c'est plutôt la campagne qui l'emporte. C'est d'ailleurs pour ça que certains mouvements citoyens, comme le ballet citoyen au Burkina Faso, s'étaient opposés au moment du départ de Compaoré à l'organisation d'un référendum parce qu'ils avaient peur de le perdre et ils indiquaient que c'est à cause des campagnes qui étaient trop conservatrices.
Et est-ce qu'il n'y a pas une part de stratégie alors aussi de la part de ces mouvements de délaisser peut-être un peu les campagnes ?
Alors ce serait ennuyeux parce que ça se mettrait un petit peu en rupture par rapport aux vieilles théories qu'on avait autrefois de l'avant-garde révolutionnaire, des gens qui ont eu la chance d'aller à l'école, de comprendre plus vite la marche du monde, d'être plus sensibles aux inégalités, aux injustices, et de se rendre précisément dans les campagnes pour convaincre leurs compatriotes. Et là c'est vrai que les mouvements citoyens africains, du moins ceux que j'ai étudiés, estime que pour le moment, il n'est pas nécessaire de le faire.
Et vous pensez que c'est une des limites de ces mouvements citoyens aujourd'hui ?
Ça dépend comment on considère la lutte pour la révolution. Si on veut renverser les autocrates ou les pouvoirs en place, ça dépend si on veut faire prévaloir la violence immédiate, ou bien si on veut effectivement consulter l'ensemble du pays. Maintenant, à la décharge de ces mouvements, s'ils n'ont pas confiance dans le vote global du pays, c'est que parfois on est encore dans des pays où les votes des campagnes sont un peu truqués.
Christian Bouquet, merci.
Je vous en prie.